Il y a quelque chose de fondamentalement faux dans cette histoire des dirigeables. On a toujours la promesse de que ce sera quelque chose de mieux et on finit toujours mal.
Impatience.rsr.ch Sapristi, c'est tout un programme.
On en voit assez peu aujourd'hui, ils existent pourtant depuis plus d'un siècle et demi et qui sait, peut-être peupleront-ils le ciel de demain grâce à un projet international lancé par l'association Hepta Aéro. Ce sont les dirigeables, Lucille Solari.
Et oui, Nancy, Hepta Aéro, on les connaît un petit peu dans l'impatience puisque c'est eux qui signent ce projet du faux, hein, cet avion de 1910 qui avait traversé le Léman dans sa longueur, sauf erreur, et dont nous avons parlé dans l'impatience. Voilà maintenant qu'ils proposent ce projet Search, c'est le titre du projet qui associe notamment les PFL et la Haute École d'ingénieurs d'Yverdon, entre autres, hein, puisque c'est un projet international. L'idée, c'est quoi? Eh bien, précisément, c'est une recherche internationale avancée sur un dirigeable semi-rigide. Alors, pourquoi les dirigeables? Eh bien, Nancy, parce que les dirigeables, c'est un petit peu comme les histoires d'amour.
Ça finit mal.
En général. Voilà. Petite histoire, très, très rapidement. Premier dirigeable, on est en 1852, c'est un Français qui le construit, c'est Henri Giffard. L'idée c'est quoi? Bien, l'idée c'est de construire un ballon, hein, on connaissait les montgolfières jusque-là, un ballon qui ne soit pas dépendant des courants aériens, comme c'est le cas pour la montgolfière. Donc de le diriger, d'où le nom du dirigeable. De 1852 à aujourd'hui, la technologie a très peu évolué en un siècle et demi. Il y a trois sortes de dirigeables. Le souple, c'était le cas du premier dirigeable donc, de 1852. Mm-hmm. Ensuite, on invente le semi-rigide, c'est-à-dire avec un châssis à la base du ballon qui est ovale. Et puis, il y a le dirigeable rigide. C'est une coque, en fait. C'est un châssis sur lequel on a mis une toile. C'est l'Hindenburg.
Oui.
Vous vous souvenez de l'Hindenburg qui avait pris feu en 1937 et qui avait fait des dizaines de morts.
Mais bon, vous nous le dites, l'Hindenburg prend feu, l'Italie lui va s'écraser.
Oui, c'était celui de Nobile.
Voilà. Donc, on signe tout de suite pour un tour en zeppelin.
Comme disait l'autre, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Moi, je ne signe pas, je peux vous le dire. Hein. C'est précisément l'idée de Search qui va donc réunir des dizaines de scientifiques, toutes disciplines confondues, pour plancher sur ce problème spécifique. Pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche? C'est un projet porté avec passion par Hannibal James, qui est président de l'association Hepto.aéro, que j'ai retrouvé au bord du lac d'Yverdon, devant une dizaine de photos de dirigeables.
Ces images essayent de retracer dans une trentaine d'images la philosophie qui existe derrière ce projet. Donc, une image, par exemple, il montre toutes les promesses qui nous ont faites autour du dirigeable. Ce sont des couvertures, des magazines scientifiques et technologiques, ou des vulgarisations scientifiques et technologiques des années 20 et 30, où le dirigeable était la grande promesse. On pouvait tout faire avec le dirigeable. Par exemple, un moyen aérien de vaincre les ennemis des États-Unis, ou l'utiliser comme relais radio pour des communications ou dans les loisirs. Par exemple, ici, on est en train de faire la pêche directement depuis la nacelle d'un dirigeable, l'utiliser comme une sorte de porte-aéronef volant aussi. Donc, il avait, dans l'histoire du dirigeable, il avait toujours la promesse de quelque chose d'extraordinaire qui va résoudre tous les problèmes. Mais, comme vous voyez dans cette image, la promesse, elle n'est jamais tenue. On finit toujours avec un amas de ferraille calciné, avec des morts, avec des tragédies.
Ça, c'est l'Hindenburg. Hein?
Voilà, ça, c'est une image du reste calciné de l'Hindenburg. C'est assez impressionnant. Tout le monde connaît ces fameux films où on voit les dirigeables en direct en train d'exploser devant les yeux terrorisés des passagers, journalistes et autres personnes qui étaient là.
The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it. It bursts into flames. Oh my, get out of the way, please. I can't talk, ladies and gentlemen. Honestly, it's just like they're a massive fucking wreckage.
Ici, la notre image encore, c'est le Deutschland 1. C'est le premier aéronef qui a été conçu pour transporter des passagers. Pendant qu'il faisait ses vols d'essai, vous voyez, il a essayé de l'introduire dans son hangar, un rafale de vent l'a plié, et voilà, qu'il est détruit. Finalement, c'est le Deutschland 2, qui était la première aéronef de transport mis en service en 1910. Donc, ça vous montre ces images. Il a aussi le crash, la destruction en vol du Shenandoah, une grande dirigeable de l'armée, de la marine américaine. Vous voyez, c'était impressionnant. Un objet de 270 mètres qui se brise en deux dans l'air. Et donc, ça a marqué beaucoup les esprits, tout ce type de images. Et c'est la preuve qu'il y a quelque chose de fondamentalement faux dans cette histoire des dirigeables. On a toujours la promesse de que ce sera quelque chose de mieux, de bon marché, d'énergétiquement correct, d'une bonne machine à gagner de l'argent, à transporter, à se faire plaisir. Et on finit toujours mal.
Vous me disiez, Hannibal James, que dans toute l'histoire des dirigeables, il y a environ 3000 dirigeables qui ont été construits et aucun n'a eu le temps, ou presque, à part deux je crois, n'a eu le temps de prendre sa retraite.
C'est juste. Donc il a un registre assez exhaustif qui mentionne la liste presque exhaustive de tous les dirigeables qui ont été construits dans l'histoire depuis 1852. Et on constate que, sauf deux des grands dirigeables, ont été ferraillés, c'est-à-dire ont fini leur vie paisiblement à la retraite. Tous les autres ont fini en catastrophe, abattus en cours d'un combat, explosés ou détruits en vol, crash après crash après crash. Non, donc ça montre que la technologie est loin d'avoir résolu le problème principal, qui c'est justement la fragilité structurelle. Ça, c'est un problème. La dépendance énorme aux conditions météorologiques. Un dirigeable, il peut voler très peu de temps, très peu d'heures par année. Donc, il est relativement peu rentable. Ça qui explique justement le peu d'engouement qui est produit à niveau industriel et commercial. Et on a aussi un autre problème associé à ça, c'est le système de pilotage. Si on se fie au registre officiel, aujourd'hui, en tout et pour tout, il y a 20 pilotes de dirigeables certifiés dans le monde. 20. Et moi, je connais 5 ici en Europe. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement rare et difficile aussi piloter un dirigeable. Il faut un savoir-faire, il faut trouver des solutions qui ne sont pas évidentes.
Merci à Hannibal James, président d'EPTA Aero. Lucille Solari, à quand un dirigeable dans le ciel roman?
Alors ça, on ne peut pas le dire. Mais ce sera, disons, le projet court jusqu'en 2016. D'ici là, la philosophie du projet, c'est quoi? C'est d'aller chercher dans la préhistoire de l'histoire des dirigeables, c'est-à-dire avant 1852, tous les projets, toutes les idées, tous les rêves qui ont été conçus à l'époque et qui n'ont pas pu être réalisés, notamment faute de technologie, et puis de voir dans les technologies de pointe contemporaines, y compris dans les technologies qui n'existent pas encore, quelles seraient ces réponses technologiques qui pourraient apporter des réponses et réaliser ses rêves ou ses projets. Alors peut-être qu'en 2016, on aura une nouvelle génération de dirigeables. C'est pas sûr, on verra. Mais finalement, la philosophie du projet, la philosophie d'Hannibal James, c'est de dire qu'est-ce qui compte dans le voyage. C'est pas vraiment le but, c'est justement le voyage.
D'accord. Donc vous nous donnerez des nouvelles du voyage?
Très prochainement.
Impatience. Nancy Ypsilantis.